Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour à tous. Une pièce de théâtre avec Emmanuel Macron dans le public perturbée hier soir. Le siège de la CFDT pris pour cible hier aussi par des manifestants violents. Les vœux du ministre de la Culture prévus pour lundi annulés en raison d'une action prévue par la CGT. Le conflit social change de forme à mesure qu'il s'enlise, analyse de l'historien Stéphane Sirot en début de journal. Focus également sur ces vœux annulés par Franck Riester. Le discours du ministre, resté très silencieux depuis le début de la contestation, était très attendu par les syndicats, des syndicats qui ne cachent pas de fait leur déception, vous l'entendrez. Direction le Mexique ensuite, où le gouvernement se prépare à accueillir une caravane de 3000 migrants venus du Honduras. La mobilisation des habitants de Belgrade qui étouffe sous la pollution aux particules fines. Et puis Marie Viennot viendra en fin de journal pour sa bulle éco consacrée ce midi à l'étude d'impact de la réforme des retraites que doit présenter le gouvernement. Des militants sont quelque part dans le coin et appellent tout le monde à rappliquer. Quelque chose se prépare, la soirée risque d'être mouvementée. Ces mots figurent dans un tweet publié hier soir par le journaliste du Média là-bas, si j'y suis, Tabouaf. Il se trouve alors au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, assis à quelques mètres d'Emmanuel Macron, venu assister à une représentation. Peu de temps après, des manifestants, quelques dizaines, tentent de pénétrer sans succès dans le théâtre en chantant « Macron démission ». Le président est mis en sécurité quelques minutes, puis retourne voir la fin du spectacle. Tabouaf, quant à lui, est interpellé et placé dans la nuit en garde à vue, soupçonné de participation à un groupement formé en vue de commettre des dégradations et des violences. Depuis, dans les médias et sur les réseaux sociaux, les appels à la libération du journaliste font face aux accusations de participation, voire d'incitation à s'en prendre au chef de l'État. En attendant de démêler les nœuds dans cette affaire, on ne peut que constater une nouvelle fois que la contestation contre l'exécutif prend de nouveaux chemins. L'enlisement du conflit amène à plus de symbolique et plus de radicalité. Stéphane Sirot est historien spécialiste des syndicats et des conflits sociaux et enseignant à l'université de Cergy-Pontoise.
Cet allongement du conflit et cette volonté de le faire durer, ça va conduire à multiplier ces interventions spectaculaires parce qu'il va falloir qu'ils trouvent d'autres formes pour faire durer la contestation. La grève elle-même, la forme de la grève reconductible, elle peut difficilement s'étaler sur des mois. Donc il va falloir faire vivre la contestation d'une autre manière. Et cette autre manière, ça sera forcément des actions comme celles qu'on vient de voir hier. Et puis, il existe aussi aujourd'hui des outils qui le permettent, qui sont les réseaux sociaux, qui peuvent à tout moment, parce qu'on a repéré Emmanuel Macron, parce qu'on veut se rassembler très vite quelque part de manière inattendue, on a les moyens, les outils de le faire avec le numérique. Et ça, c'est quelque chose qui s'est installé dans les conflits sociaux aujourd'hui, notamment avec les Gilets jaunes l'année dernière.
Stéphane Sirot, au micro de nos confrères de France Info. On peut ne pas être d'accord, mais il faut retrouver le respect normal de base qui permet à une vie démocratique de s'exercer, comme ce matin la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon. Hier, avant les Bouffes du Nord, des dizaines de militants ont fait intrusion au siège de la CFDT, agressant verbalement et physiquement des personnels présents, selon le patron du syndicat, Laurent Berger. Autre épisode de contestation, ce matin, les premières épreuves du baccalauréat au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand ont été annulées par le proviseur. Il s'agit des nouvelles épreuves anticipées qui figurent dans le contrôle continu du bac. Annulation due à la présence de manifestants dans l'établissement suite à un appel à mobiliser de plusieurs syndicats. Les épreuves sont reportées à une date ultérieure pour l'instant. Il y en a un qui ne sera pas gêné, et pour cause, avant même ses vœux qu'il devait prononcer à la Bibliothèque nationale de France lundi prochain, Franck Riester a fait le choix hier soir de les annuler, tout simplement en raison d'un appel à manifester lancé par la CGT Spectacle. Le ministre de la Culture, très critiqué pour son silence, son manque de dialogue face à la mobilisation dans le monde du spectacle, estime que les conditions n'étaient pas réunies pour que la cérémonie se déroule sereinement. Et voilà maintenant les syndicats déçus une nouvelle fois par leur ministre Thomas Larabi.
Oui, selon le secrétaire général de la CGT Spectacle, Laurent Gravoux, il n'y avait évidemment pas de violence au menu. Les grévistes avaient simplement prévu un rassemblement festif en musique et surtout quelques questions pour leur ministre.
Je trouve pas ça très courageux de la part du ministre qui n'a toujours rien dit sur les conséquences qu'il connaît de la réforme pour nos professions. Alors qu'il sait que c'est une catastrophe, il continue par fidélité au gouvernement à défendre cette réforme sans nous avoir répondu sur toutes les questions qu'on a posées, des études d'impact et autres.
Et pourtant, sur les autres sujets, le syndicat se dit plutôt satisfait du dialogue avec le ministre, mais sur le retraite, il n'y a pas de débat, alors que les professions du monde de la culture et ses nombreux statuts seront largement touchés pour Laurent Gravouille.
Pour les auteurs, c'est catastrophique. Pour les agents de son ministère en général, c'est catastrophique, comme pour beaucoup de fonctionnaires qui sont souvent avec des très bas salaires. Et pour les intermittents, ça va être par nature très compliqué. On a tous des mauvaises années. Des années où les spectacles s'annulent, les productions s'annulent, et où on a une très forte baisse des revenus. Donc, quand on compte les 25 meilleures années, les retraites des intermittents sont déjà très basses, elles sont quand même pas plombées par les mauvaises années. Dans un système à points, elles vont être plombées par ces mauvaises années.
Alors, le mouvement continue de s'étendre dans les théâtres, l'audiovisuel public, mais aussi les bibliothèques, la BNF et la BPI en tête. Et à 15h cet après-midi, des grévistes de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française donnent un concert gratuit sur le parvis de l'Opéra Garnier.
Thomas Larabi, merci. Et parmi les spectateurs de ce concert, peut-être des gilets jaunes qui doivent manifester avec Solidaires seulement cet après-midi à Paris pour la 45e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Impossible pour l'heure de faire un lien avec le mouvement de grève. La brasserie La Rotonde, dans le 6e arrondissement de Paris, a été touchée par un incendie cette nuit. Des individus auraient rôdé autour, ils auraient cassé des vitres et lancé un objet incendiaire. Le restaurant restera fermé plusieurs semaines. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Le lieu est symboliquement lié à Emmanuel Macron, qui avait célébré sa qualification pour le second tour de la présidentielle. À la frontière au sud du Mexique, des images bien familières. Une nouvelle caravane de migrants venus d'Amérique centrale est en route depuis maintenant 3 jours, avec pour objectif, bien entendu, les États-Unis. Le convoi de marcheurs, environ 3000 personnes, est parti du Honduras et s'est installé hier à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Ils vont maintenant faire face à la loi mexicaine quelque peu ambiguë, à savoir interdiction de traverser le territoire en direction des États-Unis, mais possibilité de demander un permis de travail pour s'établir dans le sud du Mexique. C'est le résultat de l'engagement pris par le président Andrés Manuel López Obrador vis-à-vis de son homologue américain. À Mexico, correspondance signée Emmanuel Stills.
Quelques 1000 personnes au départ de San Pedro Sula ou Honduras sont devenues 3000 aux portes du Mexique 3 jours plus tard. Une nouvelle caravane de migrants s'est formée, a grandi et campe à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Un défi pour le gouvernement de ce pays qui entr'ouvre la porte à ses marcheurs. 4000 emplois aux migrants d'Amérique centrale, c'est l'offre lancée hier par le président Andrés Manuel López Obrador, à condition qu'ils s'établissent dans le sud du Mexique ou qu'ils demandent l'asile. « Nous ne sommes pas un pays de transit », affirment les responsables mexicains. La caravane, qui vise la frontière nord, les États-Unis, trouvera porte close si elle ne se dissout pas en démarche individuelle. Pour le gouvernement de gauche de López Obrador, c'est une manière de jouer la carte humanitaire en accueillant les personnes tout en freinant la caravane, pour continuer d'honorer les accords passés avec les États-Unis. Au cours des 7 derniers mois, le nombre de migrants qui sont parvenus à la frontière avec ce pays a drastiquement chuté, du fait de l'action zélée du gouvernement mexicain qui a déployé des milliers d'effectifs de sa garde nationale sur les 2 frontières pour dissuader le passage des migrants. Mais ce même gouvernement, qui se dit respectueux des droits de l'homme, usera-t-il la force contre un convoi de familles si celles-ci tentent de franchir le fleuve qui marque la frontière avec le Guatemala ? Le message envoyé de Mexico n'est que fermeté, la caravane ne passera pas.
Emmanuel Stills au sujet du climat dans les Balkans. Comme chaque hiver, les grandes villes suffoquent à cause de la pollution aux particules fines. De Sarajevo à Pristina, on souffre d'une dépendance au charbon. Et ces derniers jours, la situation est particulièrement critique. À Belgrade, où les citoyens ont donné de la voix hier afin que leur ville ne soit plus dans le top 10 des villes les plus polluées au monde. Reportage sur place de Louis Seyé.
L'air était un peu meilleur ce vendredi à Belgrade, mais Maxime se méfie du brouillard qui tombe sur la ville. C'est muni d'un masque que cet étudiant est venu protester contre les brumes toxiques qui ont enveloppé la capitale serbe ces derniers jours.
J'avais des difficultés à respirer, des difficultés à voir. L'air était lourd, c'était vraiment bizarre quand je respirais. À certains moments, j'ai eu des vertiges.
Un peu plus loin, au milieu de la foule qui se masse devant l'hôtel de ville, Nina, 14 ans, a convaincu son père de venir manifester avec elle. Cette jeune belgradoise en a assez des particules fines.
Belgrade ne devrait pas être autant polluée et c'est à nous de lutter contre cette pollution. C'est à nous les jeunes de lutter, pas les plus âgés.
Membre du collectif citoyen Ne laissons pas couler Belgrade, Dobrica Veselinovic est l'un des organisateurs de la manifestation. Pour lui, le gouvernement serbe n'est pas à la hauteur de la situation.
Les autorités ne font absolument rien. Elles disent seulement que le niveau de pollution est similaire à celui des années précédentes et que le vent va résoudre le problème.
Ces brouillards toxiques ne sont pas un phénomène nouveau dans les Balkans, une région fortement dépendante du charbon. Selon une étude des Nations Unies, la pollution de l'air coûte 1,3 ans d'espérance de vie aux citadins des Balkans occidentaux.
La majorité de notre électricité provient du charbon, donc nous appelons à une transition énergétique vers des solutions plus durables comme le solaire ou l'éolien.
Une transition qui s'annonce difficile. Contrairement à la plupart des pays de l'Union européenne, les gouvernements des Balkans envisagent de construire de nouvelles centrales au charbon dans les prochaines années.
Louis Seyer en Serbie, il est 12h40 sur France Culture.
La bulle économique, Marie Viennot.
2 mois de discussion sur les retraites et le gouvernement n'a toujours pas présenté d'études sur l'impact de sa réforme. Il devra le faire lors de la présentation du projet de loi le 24 janvier prochain. C'est une obligation constitutionnelle. Mais y verra-t-on plus clair? C'est la bulle éco de Marie Viennot.
Alors que le débat sur les retraites bat son plein depuis des mois, faisons un point sur quelques chiffres. Première question, le système actuel est-il en déficit? Oui, il l'est. En 2018, le régime général et le fonds de solidarité vieillesse sont dans le rouge pour 1,8 milliard d'euros. En 2019, ce devrait être 4,4 milliards d'euros. Ce serait moins si le gouvernement avait compensé les moindres recettes pour la sécurité sociale des mesures qu'il a prises pour répondre à la crise des gilets jaunes, mais il y aurait quand même un déficit. Deuxième question, d'où vient le chiffre de 12 milliards d'euros de déficit en 2027 annoncé par le gouvernement ? Du rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a été rendu en novembre. Sauf que le COR n'a pas donné un chiffre de déficit, mais des chiffres. La fourchette qu'il met, lui, en avant dans son rapport, c'est 7 à 17 milliards de déficit en 2025. Si la fourchette est large, c'est parce que diverses prévisions de croissance, de chômage et de productivité ont été prises en compte. C'est aussi parce que le COR a 3 modes de calcul différents, TCC, EPR et EEC. Pour chacun, en gros, la contribution de l'État en tant qu'employeur et en tant que garant de la solidarité vieillesse diffère. Et cela joue sur l'ampleur du déficit. À ce jour, et en dépit de mes demandes, je ne peux pas vous dire laquelle a choisi le gouvernement pour trouver ces 12 milliards. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que pour ce rapport de novembre, le gouvernement a fixé au COR des hypothèses nouvelles qui relèvent non pas de la macroéconomie, mais de choix politique. Jusqu'à maintenant, le COR considérait que la masse salariale des agents de la fonction publique augmentait autant que celle du privé. Pour le rapport de novembre, changement de braquet, le gouvernement lui demande de faire ses calculs avec une masse salariale des fonctionnaires quasi stagnante, ce qui va, entre parenthèses, à l'encontre des engagements qu'il vient de prendre pour les salaires des enseignants. En tout cas, pour la calculette du COR, qui dit moins de masse salariale dans la fonction publique, dit moins de cotisations retraite, dit moins de recettes et dit donc aggravation du déficit. Il faut aussi toujours tenir compte des mesures gilets jaunes non compensées à la sécurité sociale. En clair, une partie du déficit annoncé par le gouvernement est liée à ses propres décisions. Ce n'est pas une analyse partisane. Plusieurs économistes ayant participé au programme d'Emmanuel Macron l'ont écrit dans une tribune publiée par Le Monde.
50 que multiplie 10 plus 8 moins 1.
899, c'est exact, madame, le compte est bon.
Troisième et dernière question, combien va coûter ce nouveau système? Même les syndicats patronaux, partisans du régime à points, regrettent qu'aucun chiffre n'ait été mis sur la table. Ce que l'on sait déjà, c'est que la réduction de cotisation pour les salaires de plus de 10 000 euros par mois va représenter 67 milliards d'euros de recettes en moins sur 15 ans. C'est l'Argicarco, la caisse des cadres des salariés du privé, qui a fait ce calcul, qui n'est d'ailleurs pas démenti par le gouvernement et fait même l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux. Autre question lancinante, le coût de la fusion des systèmes informatiques des 42 caisses complémentaires. Pour réunir 2 caisses, l'Agirc et l'Arco, cela a coûté 300 millions d'euros et pris 6 ans. Et que vont devenir les milliers de salariés de ces caisses complémentaires devenues bientôt obsolètes ? À toutes ces questions, les syndicats disent que le Haut Commissariat aux retraites leur répond « on réfléchit ». L'étude d'impact que le gouvernement est obligé de publier au moment de la présentation de son projet de loi répondra peut-être à quelques-unes de ces questions. Enfin, si vous vous demandez ce que cela va changer pour vous, le gouvernement promet un simulateur dans un an. Sachez cependant que la valeur du point étant amenée à évoluer régulièrement, plus vous êtes loin de la retraite, moins vous aurez une vision claire de ce qui vous attend, comme aujourd'hui en fait, car un simulateur existe déjà pour le système actuel. Moralité, plus on est proche de la retraite, plus les comptes sont bons, anciens ou nouveaux systèmes, cela ne changera pas.
La bulle écho de Marie Viennot. Un mot du temps de cet après-midi, ensoleillé sur une bonne partie de la France, avec un léger voile nuageux sur une partie du centre et du sud du pays, sauf au niveau des Pyrénées, ainsi qu'en Meuse et en Moselle où la pluie doit s'inviter. Les températures, elles seront assez douces, entre 8 et 13 degrés dans la moitié sud et entre 5 et 10 degrés dans la moitié nord.